Y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107 FM.
Décollage immédiat
pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes le mercredi 4 janvier, il est 8h30, la première matinale de l'année, année que je vous souhaite excellente. J'espère qu'il y aura du sourire, du rire, de l'amour dans vos vies. Au programme de cette matinale, c'est l'emploi et l'insertion qui sont à l'honneur dans cette émission. Dans un instant, c'est d'abord Hélène Touy qui nous rejoindra. Elle est directrice de l'ASA DFCI, Association Syndicale Autorisée de Défense des Forêts contre l'Incendie, qui change de nom et devient Contrat Vert Sud de l'Ozé. On parle de sa structure avec elle dans un instant. Et en deuxième partie d'émission, c'est la mission locale qui sera à l'honneur. Nous recevrons Delphine Bressieux, elle est chargée de projet pour la mission locale pour un dispositif qui s'appelait Garantie Jeune et qui est remplacé par le contrat d'engagement jeune. Et puisque nous parlons de mission locale, je vous propose en dernière partie d'émission de réécouter un reportage que nous avions fait avec Franck Bateau qui travaillait justement la mission locale. Il y est chargé du numérique et avec quelques jeunes de la MLI, il les avait réalisé un mapping pour le Festival Saint-Enimi BD, ce sera à la fin de cette matinale. Pour la musique aujourd'hui, je remercie notre ami Nono qui nous a fait découvrir le choro, du jazz brésilien et l'artiste Anat Cohen. Elle est clarinettiste et son ensemble Choro Aventuroso. Ça va mettre du soleil en ce petit matin de janvier, bien frisqué dis donc. Je vous souhaite au nom de l'équipe de Radio Bartas une excellente année et nous sommes ravis si vous la passez encore une fois avec nous sur le 107. Vous êtes bien sur Bartas et on y va pour l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Ça a dû vous dresser les cheveux sur la tête, certainement comme moi. L'échéance fixée par la justice est arrivée à son terme. Le 14 octobre dernier, le tribunal administratif de Paris a ordonné à l'État, condamné quelques mois plus tôt pour inaction climatique, de prendre toutes les mesures utiles pour compenser l'excès d'émissions de dioxyde de carbone constaté entre 2015 et 2018. Durant ces trois années, la France a émis l'équivalent de 15 millions de tonnes de CO2 en trop par rapport aux objectifs fixés. Le jugement précise, je cite, que cette réparation doit être effective au plus tard le 31 décembre 2022. Cette date étant passée, les parties civiles regroupées au sein de l'association L'Affaire du Siècle peuvent désormais demander une astreinte financière dont le montant sera fixé par le tribunal. Un comble, n'est-ce pas, alors que le président de la République tenait ce même 31 décembre un discours hallucinant à grands coups de « mais qui aurait donc pu prévoir ?» L'association Notre Affaire à tous, la Fondation pour la Nature et l'Homme, les ONG Oxfam et Greenpeace, réunies sous la bannière L'Affaire du Siècle, se déclarent prêtes à saisir à nouveau la justice pour obtenir des pénalités financières contre l'État. On ne pourra pas dire que Macron n'était pas au courant. La note va être salée, affaire à suivre dans les semaines à venir. We'll be right back. Nous arrivons en studio, nous sommes ce matin avec Hélène Touy, bonjour.
Bonjour.
Tu es la directrice de l'ASADFCI du canton du Pont-de-Montvert. Alors on adore les acronymes, ça nous permet de dire ce qu'est l'ASADFCI, l'association syndicale autorisée de défense des forêts contre l'incendie, c'est ça?
Alors ça tombe bien qu'on aime les acronymes parce que nous avons décidé de changer de nom.
Ah.
Et l'association s'appelle désormais Contravert Sud-Lozère, donc fini les acronymes. Et j'expliquerai un peu plus tard dans l'émission, parce que j'imagine que tu vas me poser la question, ce que signifie Contravert.
Exactement, on en parle tout à l'heure. Alors déjà, si j'ai bien compris, et ça tombe bien, tu vas tout nous expliquer. Votre asso, vous êtes une branche de ce qu'on appelle l'IAE, l'insertion par l'activité économique, c'est ça?
Oui, tout à fait. Nous sommes avant tout un chantier d'insertion qui existe depuis 1994. Hein, donc ça commence à compter. Mmh. Voilà, on fêtera bientôt nos 30 ans.
C'est beau. Et 30 ans, c'est le bel âge. Hein.
Exactement. C'est l'âge de la maturité. Tout a commencé donc en 1982 hein, par la fondation d'une association, effectivement une ASA, association syndicale agréée. DFCI, pourquoi? Parce que défense des forêts contre les incendies. Donc c'était initialement la vocation de l'association. Et puis en 1994, avec la flambée du chômage, hein, il a été décidé par la commune de Ventalon, mmh, et de façon générale par les communes justement du canton de Pont-de-Montvert, de créer un chantier d'insertion pour fournir du travail hein, à ceux qui n'en avaient pas et qui étaient éloignés de l'emploi.
Alors on va vraiment parler et rentrer dans le concret. Toi, tu y es depuis août dernier.
Exactement.
Qu'est-ce qui t'y a amené?
Alors, moi, j'ai un historique dans l'insertion. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans ce secteur-là et dans le secteur des ressources humaines à Marseille, parce que je ne suis pas originaire du coin. Et puis, je suis tombée amoureuse des Cévennes et j'ai eu l'opportunité de venir y travailler. Et voilà la raison de ma présence ici.
Alors, comment ça se compose, votre structure, autrement dit, qui y bosse?
Alors, elle est composée de 4 permanents. Mon poste, hein, poste de directrice. On a un accompagnateur socio-professionnel, puisque justement on fait de l'insertion. Son rôle est d'accompagner nos salariés en insertion à la construction d'un projet professionnel viable, hein, c'est-à-dire qui va leur permettre à l'issue de leur contrat chez nous de trouver une activité, un emploi ou une création d'entreprise hein, qui leur permette ensuite de voler de leurs propres ailes. Et également, nous avons deux équipes de salariés en insertion, une située à Ventalon en Cévennes, l'autre située à Sainte-Croix-Vallée-Française, composée d'environ 6-7 salariés et encadrée par un encadrant technique qui est également chef de chantier.
Qu'on comprenne une chose, est-ce que vous vous adressez à tout type de public, c'est-à-dire est-ce qu'un jeune de 25 ans ou une personne de 50 ans peut intégrer les équipes dont tu viens de parler?
Alors les contrats d'insertion s'adressent essentiellement aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, le RSA, mais également effectivement aux jeunes accompagnés par la mission locale. Mais nous avons également des salariés qui nous sont prescrits, envoyés par le Pôle emploi. Il est également possible de faire une candidature sans être suivi par la mission locale ou par le Pôle emploi, mais il faut quand même répondre aux critères, à savoir être éloigné de l'emploi, c'est-à-dire être au chômage depuis longtemps, ou être bénéficiaire du RSA ou accompagné par la mission locale. En tout cas, c'est l'idée, puisque ce sont des partenaires qui également accompagnent les salariés, ce qui fait qu'on travaille en équipe hein, entre celui qui a prescrit et le chef d'équipe et l'accompagnateur socio-professionnel. Et c'est cette équipe-là, autour du salarié, qui va justement l'aider à monter son projet.
Eh bien, rentrons dans le concret. C'est quoi les contrats verts?
C'est quoi les contrats verts? Ben justement, ce sont des contrats à durée déterminée d'insertion. Pourquoi verts? Tout simplement parce que nous travaillons dans la forêt. Nous avons une activité d'entretien de l'espace rural, essentiellement du bûcheronnage, de l'élagage, du débroussaillage, mais il nous arrive aussi de réparer ou de construire des murs en pierre sèche, et également d'effectuer des interventions à la demande des collectivités qui composent l'association, parce que ça, on n'en a pas encore parlé, mais l'association est en fait gouvernée par 12 collectivités locales, 11 mairies, et puis la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère.
Concrètement, c'est eux qui financent ?
Concrètement, ce ne sont pas forcément eux qui financent, ce sont eux qui gouvernent. Hein, ils sont constitués en assemblée qui prend toutes les décisions pour l'association. Hein, c'est un peu son conseil d'administration. Pour une ASA, on appelle ça une assemblée syndicale. Et les financeurs sont le conseil départemental, la subvention leader, qui est une subvention européenne aussi et qu'on remercie au passage. Et puis, bien sûr, l'État, l'État qui subventionne essentiellement les contrats de travail de nos salariés.
Alors, tu parlais de construction en pierre sèche, de murs en pierre sèche. Est-ce que ça veut dire que vous avez un partenariat avec la BPS ?
Alors, nous sommes très proches de la BPS puisque nous avons un chantier historique et le siège qui est situé sur la même commune à Ventalon. La BPS peut intervenir pour nous former ou former des salariés ou d'anciens salariés. Nous n'avons pas réellement de partenariat et nous intervenons essentiellement sur des zones où la BPS ne se rend pas puisque la BPS reste le spécialiste référencé du coin pour la construction de beaux ouvrages en pierre sèche.
Au moins c'est clair. Alors justement, tu parlais d'organismes décideurs. Est-ce que ces organismes-là, puisqu'ils sont plusieurs comme tu le disais, qui choisissent les chantiers? Ou alors, est-ce que c'est vous à l'intérieur, en discussion avec les salariés qui vont intégrer la structure, qui décidez? Comment ça se passe en fait, concrètement?
Alors concrètement, ça part d'un besoin. Une collectivité locale, donc une mairie, a besoin de mettre en place un chantier, par exemple pour nettoyer des sentiers, pour nettoyer un bout de forêt. On travaille également avec le parc national, qui lui aussi a besoin de nos interventions pour nettoyer son territoire, pour l'entretenir. Mais également, le besoin peut venir d'un agriculteur qui aurait besoin, par exemple, d'ouvrir une parcelle, ou d'un particulier qui voudrait répondre à son obligation légale de débroussaillage, ou tout simplement entretenir sa propriété. Donc d'abord, il y a un besoin, et puis ensuite, on s'adresse à nous. On vient sur terrain pour faire un devis avec nos salariés, ça fait aussi partie de leur apprentissage. Et ensuite, si le devis est accepté, on réalise la prestation chez le client.
Et est-ce que les contrats, là, donc deux équipes de 6 ou 7 personnes, est-ce qu'une fois le chantier terminé, est-ce qu'ils quittent la structure, s'en vont voler de leurs propres ailes, peut-on dire, ou alors est-ce qu'ils peuvent continuer encore comme ça sur un autre chantier, par exemple?
Alors, on a des contrats de 6 mois qui sont renouvelables environ 4 fois, donc on peut aller jusqu'à 24 mois. Et le renouvellement émane à la fois d'un avis de notre part, ce qu'il est nécessaire de renouveler ou pas, et évidemment du besoin du salarié. Donc si le salarié est prêt à voler de ses propres ailes, il peut tout à fait librement, à l'issue de son contrat, quitter l'association. En sachant, et c'est très important, on le dit dès le recrutement, que nous, finalement, notre raison d'être, dès qu'on embauche un salarié, c'est de le faire partir. On n'est pas là pour les garder, on est là justement pour les former et les accompagner pour qu'ils aillent voler de leurs propres ailes.
Alors justement, comment ça se passe moi j'avais quelques petits problèmes pour vous contacter, comment j'arrive dans votre structure?
Alors lorsqu'on a un besoin de recrutement, on émet une offre, tout simplement une offre Pôle emploi. On prend également les candidatures spontanées, on peut nous envoyer un mail par exemple à coordination@asa-dfci48.fr.
Elle va changer l'adresse mail aussi, je suppose.
Elle finira par changer, effectivement.
Tout comme le site, on en parlait hors antenne, il n'est pas encore à jour, mais ça ne serait tardé là, dans les mois qui viennent. C'est ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année?
Oui, tout à fait. Le changement de nom de la structure est très récent. Donc effectivement, on va consacrer une partie de notre année à faire la promotion de cette nouvelle dénomination. Et puis effectivement, à changer nos adresses de contact. Mais pour l'instant, tous les contacts qui étaient en vigueur à l'époque de l'ASA DFCI fonctionnent toujours.
Et je mets évidemment les liens dans un instant sur notre site internet. C'est quoi le plus dur pour vous et votre structure?
Le plus difficile, c'est d'arriver à combiner justement le besoin des clients avec le besoin de nos salariés, dans le sens où nos salariés restent des salariés en insertion. Ça veut dire que ce n'est pas toujours facile pour eux de reprendre un emploi. Un emploi qui peut être difficile, puisque c'est un travail en plein air. C'est du bûcheronnage, les tronçonneuses, je ne sais pas si vous en avez déjà porté, mais c'est extrêmement lourd.
Oui, et d'ailleurs, je remercie mon papa de me l'avoir appris.
Voilà. Donc, vous connaissez également le poids d'un pantalon de sécurité, c'est-à-dire que ne serait-ce que le pantalon anti-coupure sans la tronçonneuse, c'est extrêmement lourd. Nos salariés travaillent dans des conditions difficiles, en pleine chaleur, en plein froid, donc ce n'est pas facile pour eux de se motiver. Pour autant, les salariés qui réussissent justement à se motiver sont extrêmement satisfaits de leur travail parce qu'ils peuvent réaliser directement la portée de ce qu'ils font, à savoir quand même l'entretien de l'espace rural, et Dieu sait si c'est important dans les Cévennes. Et la récompense est immédiate, c'est-à-dire que quand on arrive chez un particulier, qu'on nettoie en quelques heures son jardin et qu'on voit à quel point c'est beau, la satisfaction en fait du travail bien accompli est immédiate.
Ouais, tu m'étonnes, ça fait du bien. On arrive en 2023, à Dieu sait ça. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année?
Alors tout simplement de continuer sur notre lancée hein, et d'arriver bientôt à fêter nos 30 ans. On a quand même des projets de diversification de l'activité puisque finalement abattre des arbres, faire du bûcheronnage, ça reste une activité qui est très liée à la météo. Mmh. Ce qui signifie que par exemple les jours de pluie, on reste inoccupé, hein, on est en intempéries comme on dit. Donc l'idée c'est d'arriver à se diversifier, proposer également à nos clients d'autres types de prestations, pourquoi pas de l'entretien de leur propre matériel, parce qu'on sait faire ça, hein, on sait faire l'entretien du matériel agricole. Pourquoi ne pas réaliser des ouvrages en bois, puisque nos chefs d'équipe sont tout à fait aptes à réaliser par exemple des mobiliers hein, extérieurs. Voilà, donc on réfléchit quand même à se diversifier, à proposer plus de prestations et à arriver justement à couvrir ces moments d'intempéries où on ne peut pas intervenir sur chantier parce que c'est trop dangereux.
Au niveau locaux et place, est-ce que vous avez suffisamment d'espace? Parce que tout ce matos-là, il faut le stocker. Bon, si jamais vous voulez travailler en intérieur, comme tu viens de dire, ça demande de la place. Est-ce que vous avez suffisamment de place?
Alors aujourd'hui, nos équipes, en fait, ont chacune un atelier. Cet atelier leur sert à stocker le matériel et également à en faire la maintenance. Mmh. Il est vrai qu'en fonction de l'activité choisie, qui serait une activité d'intérieur, hein, puisqu'on parle là d'intempéries, il faudrait qu'on arrive à agrandir notre espace.
Mmh. Est-ce qu'on a fait le tour de la structure ?
Est-ce qu'on a fait le tour de la structure ? J'aurais quand même voulu parler, moi, des 12 collectivités locales qui gouvernent la structure, hein, pour que ce soit très clair. Donc, je ne vais pas ici en donner la liste. On pourra éventuellement la mettre sur le site où je pourrai répondre à toutes les questions si je reçois des appels ou des mails.
Mais avec plaisir.
Ce sont 12 collectivités locales. Pourquoi collectivités ? Parce qu'en fait, il y a 11 communes qui sont réparties sur l'ancien canton du Pont de Montvert. Et qui sont également répartis en vallée française. Et je remercie toutes ces communes de prendre les décisions justement qui participent de la vie active du chantier. Et je les remercie surtout de mettre énormément de moyens à notre disposition, hein, leurs locaux, les commandes qu'elles nous passent, les agents municipaux avec lesquels on collabore très très bien. Et je remercie également la communauté de communes hein, qui est l'acteur principal puisqu'elle regroupe également les 11 communes dont je viens de parler et qui constitue finalement le champ d'intervention de l'association donc des Cévennes au Mont-Lozère.
L'été dernier a été un été de sécheresse incroyable. Est-ce que on a été touché ici en Cévennes fortement par les incendies ou alors finalement contrairement à d'autres régions on s'en sort bien grâce notamment à votre travail?
Alors, il y a eu quelques incendies. Hein. On se souvient de l'incendie qui a touché Bessèges un peu plus loin. Mais globalement, je pense que si la forêt n'avait pas été si bien entretenue hein, par tous les acteurs dont on vient de parler, on aurait pu aboutir à des situations beaucoup plus graves. Nous pensons qu'il est vraiment important de continuer l'effort hein, de débroussaillage. Je le rappelle surtout aux particuliers. Réalisez vos obligations légales de débroussaillage. Je sais que c'est une contrainte, mais ça vous permettra de conserver votre belle forêt des Cévennes et puis votre habitation.
Et n'hésitez pas à contacter l'ASA DFCI qui change de nom. Je leur dis quand même que c'est l'association syndicale autorisée de défense des forêts contre l'incendie qui devient Contrat Vert Sud-Mont-Lozère. C'est bien ça, hein ?
Contrat Vert Sud-Lozère.
Sud-Lozère. Et pour vous contacter, je mets évidemment les liens dans un instant sur notre site. Merci beaucoup, Hélène.
Merci beaucoup.
Je rappelle que tu en es la directrice et bravo à toutes tes équipes, à toutes vos équipes pour ce que vous faites. À très bientôt.
À bientôt.
Dans un instant, c'est Delphine Brécieux de la mission locale qui nous rejoint. On écoute d'abord Anat Cohen et son ensemble Choro Aventuroso. Thank you. L'emploi et l'insertion sont à l'honneur ce matin. Nous sommes avec Delphine Bressieux. Bonjour.
Bonjour, Ben.
Merci d'être avec nous. Et Léo est là. Salut, Léo.
Bonjour.
Et toi, tu es en stage avec nous pour la semaine, ça va aller?
Ça va aller, j'espère.
Ça va bien se passer, avec grand plaisir. J'espère que tu auras le temps de faire un petit reportage d'ici la fin de semaine.
Je croise les doigts.
Ouais, ça va le faire, carrément. Alors, Delphine, tu es chargée de projet pour la mission locale pour un dispositif qui s'appelait, si j'ai bien compris, Garantie Jeune, et qui est remplacé par le contrat d'engagement jeune.
C'est exactement ça, ouais.
Ici en Lozère, on va évidemment parler de ce dispositif et de la mission locale. Parlons d'abord de ton parcours en quelques mots. Comment tu t'es retrouvée à travailler à la mission locale ?
Alors moi j'ai un parcours un petit peu atypique hein, parce que je ne viens pas au départ du social. J'ai fait beaucoup de formations, je travaillais dans le monde des banques et des assurances.
Waouh.
Ouais, c'était très différent, mais je faisais quand même de l'accompagnement des jeunes entrants en fait qui commençaient à travailler dans ce monde-là. Et c'est ce qui m'a amené petit à petit parce que j'avais vraiment très envie de travailler dans le social et du coup petit à petit en faisant des bilans de compétences, des choses comme ça, je me suis retrouvée à la mission locale et ça fait maintenant 2 ans et demi que j'y suis.
Et on va en parler de la mission locale. Ben, commençons par ça, parce que c'est très vaste, hein, la mission locale.
Oui.
Alors, est-ce que c'est possible, en quelques mots, de définir ce qu'est la mission locale en termes généralistes ?
Alors, la mission locale Lozère, c'est une structure départementale, donc, qui est un organisme de service public de l'emploi, qui permet aux jeunes entre 16 et 25 ans, de pouvoir faire un petit bout de chemin ensemble vers la formation, vers l'emploi, vers l'insertion de manière générale. Il peut y avoir des problématiques annexes qui sont à régler et on va essayer avec eux, tous les conseillers et les jeunes, de trouver des solutions à ça, quoi.
Est-ce que c'est facile pour les jeunes de franchir la porte de la mission locale ?
Alors, je pense que c'est facile de franchir la porte et d'y rester. Encore faut-il savoir que ça existe. Et c'est surtout ça notre difficulté aujourd'hui, c'est que c'est pas très connu. Si on fait le parallèle avec Pôle emploi, voilà, tout le monde connaît et c'est bien plus simple d'y aller. Nous, c'est un petit peu différent. Donc, on fait de plus en plus des démarches vis-à-vis des lycées sur tout le territoire lozérien, où on présente en fait la mission locale pour que chacun comprenne ce en quoi ils peuvent être aidés par notre intermédiaire, quoi.
On avait reçu ici il y a quelques années Morgane qui avait travaillé avec ce qu'on appelle, alors est-ce que ce terme est péjoratif ou non, je ne sais pas, en tout cas ils nous pardonneront, qui s'appelle les jeunes invisibles.
Les invisibles,
est-ce
oui, tout à fait.
Est-ce que tu peux nous rappeler ce que sont les invisibles ?
Alors en fait, donc, la particularité du territoire lozérien, c'est que justement on est très éparpillé, on peut être très éloigné des centres-villes, des choses comme ça, sans parler même de Mende, même ici à Florac, on peut être très très loin de tout. Mm-hmm. Et du coup les invisibles, c'était ceux qui n'étaient repérés nulle part en fait, qui n'avaient pas d'attache, soit par des rattachements sociaux, je pense au RSA, des choses comme ça, ou des démarches vraiment administratives, sur lesquelles ils n'étaient pas repérés, qui avaient par exemple été décrocheurs scolaires. Et du coup, le travail de Morgane à l'époque, c'était d'essayer de les trouver sur tout le territoire. Alors elle était en partie sur le territoire sud de Lozère, et de mémoire, puisque c'était il y a 2 ou 3 ans, je crois qu'elle avait repéré 42 jeunes, ce qui était quand même énorme en proportion du temps passé et de ce qu'elle avait pu faire, quoi. C'est un dispositif qui n'a pas été renouvelé sur la Lozère. Ça a été fait sur d'autres départements, mais ça n'a pas été renouvelé chez nous.
Malheureusement, alors qu'il a porté ses fruits.
Oui, alors on verra peut-être après, mais dans le cadre du CEJ, justement, du contrat engagement jeune, il y a une autre, enfin, il y a eu un appel à projet qui ressemble un petit peu, puisque ça s'appelle les CEJ en rupture. Et ça rejoint un peu l'idée, c'est avec des partenaires comme la structure Aurore, qui ira, elle aussi, alors sur tout le territoire lozérien, rechercher. Alors, je ne sais pas si on les appellera toujours les invisibles, mais en tout cas, ceux qui sont les plus éloignés, et géographiquement, et éloignés tout court, quoi, de chez nous.
Transition toute trouvée. Oui. Alors, vous proposez évidemment énormément de choses, mais allons-y. Qu'est-ce donc concrètement que le CEJ ?
Alors, le contrat engagement jeune, comme tu l'as très bien rappelé tout à l'heure, Ben, c'est la suite de la garantie jeune. Donc, c'est au départ un dispositif d'État qui a été donc proposé pour les 16-25 et jusqu'à 29 ans pour les jeunes en situation de handicap. Les critères d'éligibilité, ce sont des critères qui sont quasiment les mêmes qu'on avait sur la garantie jeune, c'est-à-dire pour tous les jeunes qui sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, enfin les NEET, ça c'est un terme anglais. Il y a quelques critères d'éligibilité qui ont été un peu élargis. Je pense par exemple aux jeunes qui étaient sur la garantie jeune uniquement en situation de handicap, mais orientés milieu ordinaire. Là, on peut aussi avoir les jeunes qui sont orientés en milieu protégé. Je le souligne parce que c'est très important. On a des jeunes par exemple qui peuvent venir d'ESAT. Et donc c'est chouette de pouvoir aussi leur proposer quelque chose à eux aussi, quoi.
Alors pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, ESAT c'est quoi ?
C'est les structures vraiment, quand on travaille en ESAT, c'est les CAT, tout ce qui peut être en lien avec le handicap, ou quelquefois le handicap peut être un petit peu plus important que quand on est orienté milieu ordinaire.
Alors, rentrons dans le concret, qu'est-ce que vous proposez ?
Alors, donc, dans le contrat engagement jeune, une fois qu'on a été reçu et qu'on est éligible au dispositif, on a, il y a quelques contraintes. On doit faire entre 15 et 20 heures par semaine d'action. Alors, quand je dis d'action, c'est-à-dire que le jeune, il faut qu'il soit en activité. Donc, ça peut être des démarches en autonomie, c'est-à-dire il prépare son CV, il fait des démarches pour pouvoir faire des stages en entreprise, des choses comme ça. C'est de son chef et c'est lui qui nous fait du déclaration par rapport à ça, mais ça sera comptabilisé dans ces 15 à 20 heures. Mmh. Et pour que quand même on y arrive, parce que 15 à 20 heures, mine de rien, c'est quand même pas mal.
Ça représente Je ne travaille pas autant, moi.
Ça représente un mi-temps quand même. Donc nous, on propose des ateliers également. Donc il y a un suivi individualisé avec un seul référent. Et dans les ateliers qui sont proposés, on a essayé de vraiment faire un panel de tous les thèmes possibles. Donc de l'écologie à la culture, en passant par vraiment le monde professionnel. On essaye de tout voir, du sport. Donc on essaye de tout mettre en œuvre. Donc ça, c'est vraiment, et je tiens à le dire là aujourd'hui pour remercier les partenaires qui jouent le jeu. On a beaucoup de partenaires sociaux qui participent à tous ces ateliers et qui permettent aux jeunes de découvrir des choses. On fait des visites, il n'y a pas très longtemps, on est allé par exemple visiter le musée Gévaudan. Il y a des jeunes qui, je pense, n'étaient jamais rentrés dans un musée, donc c'est chouette, quoi, vraiment.
Et disons-le, vos jeunes vont venir ici à la radio aussi.
Tout à fait. Alors, j'ai plus en tête la date, je crois que c'est fin janvier.
Fin janvier, ouais.
Voilà, effectivement, dans le cadre de la découverte du monde qui nous entoure, on fait des visites d'entreprise. Et donc, à ce titre-là, on viendra rencontrer Radio Bartas, en effet.
Avec plaisir, on a hâte d'y être. Parlons vrai. Qu'en est-il des moyens dont vous disposez, tant humains que financiers, pour que vous puissiez accomplir au mieux vos missions ?
Alors, si on parle de moyens financiers, on peut quand même rajouter par rapport au dispositif que les jeunes ont droit à une allocation. Donc, une fois qu'ils sont éligibles, au max, ils peuvent avoir 520 euros par mois.
L'équivalent d'un RSA.
Exactement. Quand ils ont plus de 18 ans, parce que quand ils sont mineurs, c'est un petit peu moins. Ils peuvent aussi, ça a déjà été le cas, être bénéficiaires du dispositif, mais sans allocation. Parce que si l'avis d'imposition, soit le leur, soit celui de leur famille, est trop important, ils ne sont pas éligibles à l'allocation. Mais ça n'empêche pas forcément le fait d'intégrer le dispositif. Quant à nos moyens, à nous, alors on est 4 sur le dispositif. J'ai la chance d'être accompagnée par 3 garçons. Voilà, donc ça change un peu. Il y a souvent beaucoup de femmes. Donc là, c'est un petit peu différent. Et pour ça, je remercie quand même la direction de la mission locale, parce qu'on a... souvent carte blanche pour pouvoir proposer des choses. Et alors, les moyens sont toujours limités forcément, mais on essaye d'être raisonnable. Mais quand même, on a un minibus qui permet aussi de pouvoir amener les jeunes d'un point à un autre. Donc franchement, pour l'instant, c'est plutôt correct, quoi. On arrive à proposer de belles choses.
Qu'est-ce qui est le plus dur dans votre boulot ?
Le plus difficile pour moi, c'est souvent de se dire qu'on fixe un objectif avec un jeune et qu'il semble être tout à fait en capacité d'y arriver, parce que c'est son objectif à lui qu'il a fixé, et que pour des raisons X, Y, des problématiques qu'on n'a pas forcément vues ou qu'on n'a pas réussi à traiter, qu'on n'y arrive pas, quoi. Et ça, c'est difficile parce que nous, on est là, on sait très bien que l'objectif n'est pas la réussite absolue, mais c'est quand même d'accompagner le jeune sur un chemin, lui montrer les différentes portes, et puis on espère quand même qu'un jour, les portes, il arrivera à les ouvrir tout seul et puis qu'il pourra voler de ses propres ailes. Donc ça, c'est difficile quand on n'y arrive pas.
On a parlé de beaucoup de choses que vous faites. Est-ce qu'il y a des projets spéciaux qui vont être mis en place cette année 2023?
Alors, chaque année, on participe à un projet qui est un concours international, pardon, Franck Bateau, mon collègue, me reprendrait, international, qui s'appelle « Je filme le métier qui me plaît ». Et donc, chaque année, nous y participons. L'année dernière, on a eu le deuxième prix. Donc, il y avait trois jeunes qui avaient pu participer. Donc, on a amené les jeunes à Paris, au Grand Rex. Donc, ça, c'était extraordinaire. Et il s'agit de monter une petite vidéo de 3 minutes sur un film qu'on a choisi en particulier. Et là, je fais écho ici à Florac parce qu'on avait filmé l'année dernière le Grimp. Donc, ça avait vraiment eu un beau succès, tant les images que sur le fond, la vidéo elle-même. Et cette année, on participe à nouveau. Alors, j'en dis pas plus parce que ça doit encore rester un peu secret.
Allez,
mais
un petit scoop.
C'était sur l'Aubrac. Voilà ce que je peux dire. On a commencé à tourner un petit peu des vidéos. Et puis voilà, on participe à énormément de choses. On essaye d'avoir des nouveaux partenaires. On a aussi beaucoup d'actions, et ça me tient à cœur, de citoyenneté. Donc tout ce qui est en lien avec les œuvres caritatives comme le Secours Populaire, les Restos du Cœur. Enfin voilà, on essaye d'aller leur donner un coup de main dès que c'est possible. Et on s'est aperçu qu'en fait, on n'y va pas qu'une fois. C'est-à-dire qu'on y va une fois, puis après on dit on viendra tous les mois alors. Et du coup, je ne dirais pas que les jeunes sont devenus des bénévoles, parce qu'ils ne le sont pas. Mais en tout cas, ça génère une certaine satisfaction quand on va comme ça aider les autres, quoi. Donc ça, c'est chouette.
Quel message tu donnes ce matin, c'est sûr. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui nous écoutent, et qui sont perdus, en plus de pousser la porte de la mission locale, évidemment?
Alors vraiment, vraiment de venir, parce que on a aussi des... Non mais c'est vrai, parce que on a par exemple le Crous au sein de nos locaux, et elle est là, quoi. Elle est présente, elle s'appelle Céline, elle est super, et c'est vrai que elle peut donner plein de conseils, même pour les étudiants. On est vraiment pour tous les jeunes, quelle que soit leur situation, même si ça roule et qu'ils n'ont pas de soucis particuliers. Quelquefois, il suffit d'avoir loupé, une inscription sur Parcoursup ou un petit truc, et tout de suite on est dans la panique. On peut venir nous voir, et nous, on essaiera de les aider, que ce soit financièrement ou de l'accompagnement, de conseils. Vraiment, il ne faut pas hésiter, quoi. On est une vingtaine. On a aussi l'espace 48 jeunes, là, pour tout ce qui est en soutien à la parentalité, soutien plus de l'ordre psychologique, etc. Mais vraiment, il ne faut pas hésiter, quoi. Voilà, tout ça, c'est gratuit en plus, donc c'est important.
Alors, soyons concrets ici, parce que on voit le gros bâtiment, nouveau bâtiment à Mende, ici à Florac. Comment ça se passe pour vos permanences? Je vais y arriver, tiens, c'est la rentrée pour tout le monde.
C'est la rentrée, c'est
pour
vrai.
Pour vos permanences.
Ah oui, d'ailleurs, on ne s'est pas dit bonne année.
Et bonne année, je finissais par ça.
Oui. J'ai anticipé.
Mais c'était tout à fait bien. donc, comment ça se passe pour vos permanences et
alors,
où ça se passe?
Donc, en fait, sur la mission locale, on est répartis par secteur. Donc, il y a 5 secteurs, Florac, Mende, Langogne, Marvejols, Saint-Chély. Il y a des conseillers de secteur qui chaque semaine vont sur des permanences. Donc il suffit d'aller sur le site de la mission locale Lozère et on trouve toutes les coordonnées, les adresses, les heures, etc. Souvent c'est dans les locaux de France Service. Et donc pour répondre précisément à ta question, Ben, sur Florac, c'est dans les locaux de France Service. Et ma collègue qui s'occupe des jeunes qui ne sont pas dans le dispositif CEJ, c'est Natacha, elle y est tous les mardis. Et moi j'y suis aussi tous les mardis pour les jeunes en CEJ, ou pour des ateliers, ou pour des entretiens individuels.
Et évidemment, je mets le lien de votre site excellemment bien fait sur notre site dans un instant. Quelle est ta plus grosse crainte, si tant est qu'il y en ait une, dans ton boulot?
Alors, même si on peut se réjouir d'avoir eu beaucoup de jeunes qui sont rentrés dans le dispositif cette année, parce que ça veut dire qu'on a été enfin un peu reconnus, connus, et que du coup, des jeunes ont pu pousser la porte et avoir de l'aide, c'est malgré tout un peu inquiétant, parce qu'on a eu presque 200 jeunes en CEJ cette année. Pour donner un ordre d'idée, en garantie jeune l'année dernière, en 2021, enfin l'année encore d'avant du coup, puisqu'on est en 2023, on avait eu 120 jeunes à peu près en garantie jeune. Donc moi, ça m'inquiète un peu quand même. C'est bien qu'ils aient trouvé la porte, hein, mais en même temps, comment ça se fait que tous ces jeunes... Alors, est-ce que la crise est passée par là? La crise, évidemment, du Covid. Enfin, je sais pas, je suis un peu inquiète sur tout ça.
Et peut-être aussi, je ne sais pas, c'est de la supputation, un milieu scolaire qui ne correspond plus forcément au temps d'aujourd'hui.
Alors, je ne crois pas forcément, même si on a toujours cette sensation-là. J'ai l'impression qu'on travaille quand même beaucoup en partenariat avec eux, avec l'éducation nationale dans sa globalité, même pour les plus jeunes. On a aussi ce qu'on appelle maintenant l'obligation de formation, avec lesquelles on est vraiment partenaire. À partir de 16 ans, un jeune doit être inscrit quelque part en dispositif. Et du coup, l'éducation nationale nous fait remonter des listes pour qu'on les contacte. Donc je pense que quand même, ils jouent leur rôle. Après, je ne saurais pas, je n'aurais pas la prétention de penser mieux qu'eux. Donc je pense qu'il faut continuer à travailler main dans la main, quoi.
C'est sûr. Finissons bien. Quelle est ta plus belle réussite ou ta plus grande fierté ?
Alors, ma fierté, c'est quand même mes enfants. Hein. Je vais rester très... Non, plaisanterie mise à part. Il y a un jeune, quand je suis arrivée à la mission locale, il y a 2 ans et demi, qui s'appelle Kenny, pour lequel j'avais eu une affinité particulière parce que je trouvais qu'il avait un parcours et que ça, c'était pas simple pour lui. Et aujourd'hui, il est en CDI et à chaque fois que je le vois, je suis fière de lui. Donc ça me fait plaisir et je trouve que ça, c'est quand même le but en soi quand on voit ensuite un jeune épanoui, qu'il ait trouvé sa voie ou pas, mais qu'il soit ensuite heureux et qu'il n'était pas forcément quand il rentrait chez nous, quoi.
Mmh. Voilà. T'en as les yeux qui brillent.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année qui démarre ?
Alors, qui est que tout se passe toujours plutôt pas mal comme ça se passe jusque-là, que si on est vraiment débordé, parce qu'on manque quand même beaucoup de temps, quand tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce qui nous manque, finalement, c'est pas tant les moyens, c'est vraiment le temps et d'avoir l'accompagnement de qualité qu'on aimerait avoir. On est 4, peut-être qu'il faut qu'on soit 5, quoi, je sais pas, si les chiffres continuent d'augmenter comme ça. Donc, c'est peut-être ça, c'est qu'on arrive toujours à essayer de faire un travail de qualité, qu'on essaye en tout cas sur 2023.
En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Et
merci.
Nous, on est extrêmement fiers de développer un partenariat ensemble. On en est extrêmement ravis. On vous souhaite une excellente année à toi et à toute l'équipe. Tu vois, je l'avais gardé
pour la fin. C'est bien. Tu y avais bien pensé.
Merci beaucoup, Delphine.
Merci, Ben.
Je rappelle que tu es chargée de projet pour la mission locale. À très bientôt. Et je mets le lien de la mission locale sur notre site dans un instant.
Et je précise juste que c'est également sur les réseaux sociaux. On communique beaucoup. Donc, mission locale Lozère sur Facebook et Instagram. Et voilà, donc comme ça, ça permet aussi aux jeunes qui voudraient nous découvrir de faire un peu l'historique et ils verront tout ce qu'on a proposé jusque-là.
Tout est dit, merci beaucoup et à bientôt.
Merci beaucoup.
Allez, sans transition, direction le festival Enibi BD avec les jeunes de la mission locale et Franck Bateau qui y bosse à cette occasion. Il y avait fait un mapping. Retour.
C'est de Toss Clarence. Oui, j'habite à Marbejol. Je suis venue du Cameroun. J'ai juste fait 9 mois. Et grâce à la mission locale, ça m'a été tellement surprise de voir ce qu'on a fait à la mission locale jusqu'à s'afficher. Ça m'a tellement plu et c'est tellement fier ça.
Bonjour, je m'appelle Mohamed Rabouin. Je viens de Mayotte, mais là je suis en France actuellement. J'ai 19 ans et j'ai découvert plein de choses avec la mission locale, comme le mapping, déjà ça m'a plu. Et c'est un truc que je me suis dit dans ma tête, j'allais jamais découvrir. Et au bout d'un moment, ça m'avait plu, on en parlait. Le voir affiché devant tout le monde, l'applaudir, ça m'a grave touchée.
Alors, pour le truc, on est à la radio.
Oui.
Imaginez que certains ne savent pas ce qu'est un mapping.
Oui.
C'est quoi un mapping ?
Du coup, la mapping, c'est l'ensemble d'une cinéma.
Ouais.
Par exemple, oui. Peut-être il y a les dessinateurs, ceux qui ont organisé comment ils vont faire le dessin. Et ça m'étonne comment ils sont venus le mettre. Et ça m'a tellement beaucoup plu, c'est ça.
On sent que tu as été touchée par...
Oui.
Parce que toi, tu as participé.
Oui.
Tu as participé comment?
Parce que du coup, comme on avait fait à la mission locale, et nous, on ne connaissait pas que ça devait afficher là. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Ça m'a tellement... On m'a tellement touchée, oui, c'est ça. Et du coup, malheureusement, notre camarade n'est pas venu.
Mmh.
Oui.
Qu'est-ce que toi, t'as ressenti?
Ça m'a vraiment plu.
déjà, parce que après j'ai rencontré des personnes qui font aussi des bandes dessinées et je savais pas c'était quoi un mapping déjà. Après je l'ai appris, j'ai fait et on a vu plein de dessins que dans notre tête on n'avait jamais pensé qu'on allait les voir. Après on a aussi mis des petits instrus, des musiques pour aller avec le dessin et tout. Du coup c'était grave touchant en fait.
Est-ce que ça donne envie de dessiner ?
Oui, même si on ne sait pas dessiner, mais ça donne envie, ça nous motive un peu. Vu qu'on a déjà fait le mapping, on se dit bah, pourquoi pas on crée pas notre propre dessin et l'afficher aussi, un truc comme ça.
Ça représente quoi pour vous la bande dessinée ? Est-ce que vous disiez avant que finalement un dessin pouvait parler autant que le mapping que vous avez vu ? Est-ce que pour vous ça représentait quelque chose ou pas du tout ?
Parce que d'abord du coup parce que pour faire le dessin, il faut te concentrer. Il faut d'abord une petite concentration sur le dessin et comment tu vas faire, le dessin que tu vas réaliser, est-ce que ça va donner ou pas tout.
Ça va plaire aux gens. Est-ce que le dessin ça sera bien dessiné, il faut repasser et
pour
donner des idées au dessin et une image et un visage, un truc comme ça pour que ça plaît aux gens mais pas que à toi.
Toi t'es du Cameroun, c'est ça?
Oui.
T'es en France,
oui.
Comment ça se passe pour toi?
Bon, ben, du coup au début quand je suis arrivée c'était pas facile pour moi, mais du coup comme souvenir je me suis habituée avec tout le monde, j'ai déjà fait la connaissance de plein de gens, maintenant cela ça va, j'ai aucun souci, oui. Et c'est ma première fois de faire le mapping. Oui. Oui, c'est ça. Parce que du coup au Cameroun, nous on ne fait pas ça. Ce sont ceux qui font le studio, ce sont eux qui font ça.
C'est quelque chose d'inaccessible.
Oui, c'est ça, oui.
Et que là, ça te paraît accessible, tu te dis, ça serait possible de...
D'aller même pour reproduire ou montrer. Oui, c'est ça.
La France, la Lozère, c'est bien ou tu préférais aller...
Non, la Lozère, c'est bien. C'est bien pour moi, oui, c'est vrai. C'est calme, tout est... C'est pas... Parce que du coup, il y a la différence entre le Cameroun et ici. Là, il y a plein de différences.
Toi, tu es de Mayotte?
Oui.
Est-ce que tu es arrivée quand en France, du coup?
Alors, je suis là, ça fait 5 mois. Ça fait pas longtemps que je suis à Mende. Du coup, je suis dans l'Auxerre, mais ça me plaît pas parce que si t'as pas de voiture, t'as pas un truc à te déplacer, c'est un peu compliqué et on trouve pas de travail. Il faut que tu aies un permis, un truc comme ça. Du coup, c'est un peu compliqué. Du coup, je préfère déménager. Mais au début, c'était bien parce que j'ai déjà tourné partout, j'ai un peu visité l'Auxerre et tout, du coup ça m'avait plu, mais au bout d'un moment je me suis dit je vais pas rester comme ça sans rien faire, du coup je dois chercher un truc. Et je me suis mis à chercher, mais malheureusement je trouve pas parce qu'à chaque fois on nous dit faut un permis, à chaque fois on nous disait la même chose. Du coup je me suis dit je dois me faire un permis ou je dois déménager autre part pour trouver un travail.
Est-ce que la mission locale t'aide? Et je te reposerai la question après. Qu'est-ce que t'apporte la mission locale?
Déjà, la mission locale nous porte beaucoup de choses, genre des trucs qu'on ne savait pas, comme plus sur les informatiques, faire des sorties, visiter des trucs, nous aide à faire des stages, nous aide à trouver des emplois, comment faire des CV et tout. Du coup, avec la mission locale, on a beaucoup appris, beaucoup. Et je suis fière.
Et la même question, est-ce que la mission locale t'aide? Est-ce que c'est vraiment un point de ressource que tu as?
Oui. La mission locale m'aide beaucoup et ça m'aide tellement avec mes petits besoins et aussi les petits sous que me donne chaque fin du mois. Mais c'est bon. Oui.
Si je vous demande votre rêve le plus fort, ton rêve le plus fort, tu vas faire...
Ce que moi j'aimais faire dans la vie, c'est pour devenir aide-soignante. Ou soit l'infirmière. Oui. Parce que du coup, dans mon pays,
n'y a pas de soignants, tout et tout. Il y a des problèmes pour l'accouchement, tout et tout. Là. C'est ça qui m'a tellement touchée pour le réaliser, oui. Pour aider au moins la population, aussi certains membres de ma famille, c'est ça.
Je te le souhaite.
Moi aussi, j'ai une. Alors moi, depuis tout petit, je rêvais d'être gendarme. Du coup, moi, à chaque fois, je fais des démarches, je me demande mais comment ils ont fait des concours, des trucs comme ça. Alors qu'à Mayotte, j'avais essayé de faire un concours pour faire accès avec les gendarmes. Mais c'était un peu compliqué. Du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer encore autre part pour voir si c'est pas compliqué et tout. Du coup, c'est mon rêve le plus fort que j'ai depuis tout petit. Du coup, je me suis dit, faut que je l'aie.
L'armée, quoi.
Ouais.
Ouais. Eh ben, je te le souhaite, vraiment.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir
venu. Ok, merci à vous également.
Je suis Franck Batou, chargé de projet à la mission locale, poseur.
Ça a été avec les jeunes, hein, interview ?
Génial.
Bon, super.
En fait, c'est ça qui est très étonnant. Et, notre jeunesse est incroyable, je pense vraiment. Là, on vient de voir le mapping. Mmh. Elles ont été super touchées par ce qu'elles ont vu, par ce qui s'est passé, en se disant, tiens, c'est fou.
Oui, ce que ça donne en réel.
On se rendait pas compte, et puis que des gens le voient, c'est l'essence même de ton travail, toi. En fait, au final, juste leur donner ce tout petit truc, cette petite marche, pour que finalement, elles puissent monter des échelles. Je sais pas, ma question est peut-être conne.
Non, pas du tout. Bah, en fait, la vocation des missions locales, c'est l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Mais cette insertion, en fait, elle peut prendre des formes assez multiples. Et moi, je suis très attaché, en fait, à la question de l'accès à la culture des jeunes, puisqu'on a une population qui n'a pas toujours accès, soit pour des raisons d'éloignement géographique, soit de méconnaissance, soit pour des raisons économiques. Et ça fait partie de nos missions aussi, hein, cette ouverture, sensibilisation à la culture. Moi, j'essaie de le faire avec les jeunes par le biais du numérique, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez facilitant. Eux, ils utilisent le numérique au quotidien, en particulier avec leur téléphone portable, ce qui est bien, mais souvent c'est un petit peu réducteur. Et il y a beaucoup d'usages en fait qu'ils ne connaissent pas. Donc on essaie de travailler ça. Alors, la réalisation de ce mapping, c'en est un, parce que ça leur permet à la fois d'utiliser des outils, donc de un peu de les appréhender le fonctionnement, et puis aussi d'être créatif, hein. Voilà, moi, c'est un peu ce que je cherche avec les jeunes là, qui participent à ces actions, c'est de les amener à créer des choses, de voir effectivement que c'est possible. Et puis bah, d'en tirer des bénéfices, comme on a pu voir ce soir avec un public qui est là, qui applaudit, qui a l'air satisfait de ce qu'il a vu. Donc bon, pour les jeunes, c'est valorisant. Et bon, l'idée, c'est pas d'en faire des vidéastes, hein, ou voilà, pas forcément qu'ils aillent vers ces métiers-là, mais c'est de leur montrer que finalement, avec un peu de persévérance, on peut maîtriser ces outils et en faire quelque chose en faire quelque chose de bien, tout simplement. Voilà.
Et juste, je me pose la question aussi, là, la BD, c'est un art figé.
Ouais,
aujourd'hui, on est dans la politique de l'image, entre guillemets, de l'animé. On connaît les plateformes, les films et tout.
Ouais, c'est ça.
Et de leur montrer que finalement, la bande dessinée n'est pas tant figé que ça.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, là, c'était un peu la difficulté de l'exercice. C'est-à-dire que, comme je t'expliquais tout à l'heure, Enimi BD nous a mis à disposition une banque de données, donc sous forme de planches, etc. Donc, l'idée, c'était d'en faire quelque chose. Donc, moi, ce que je demandais aux jeunes, c'était d'essayer de réfléchir, de choisir un personnage, d'essayer de réfléchir à une mise en scène Et on a beaucoup utilisé en fait des vidéos libres de droit pour faire des fonds. Donc là, ce ne sont pas les personnages qui bougeaient, mais on essayait en fait de mettre le personnage en situation dans un fond animé, tout simplement. En utilisant aussi des sons, parce que le son, c'est une partie assez primordiale dans la vidéo. Et l'idée étant de créer des ambiances en lien avec le personnage, avec ce que les jeunes avaient imaginé. La mission locale, le partenariat avec Inimi BD, c'est à la fois la réalisation de cette animation vidéo, mais ça a été aussi la participation de jeunes à la préparation du festival. Et notamment Clarence et Rabouin sont venus jeudi pour préparer les couchages, faire du fléchage, poser des affiches, etc. Donc l'idée, c'est un peu enfin ces jeunes qui n'avaient jamais fait ça, et l'idée c'est de leur montrer un peu comment s'organise un festival, de voir que c'est une organisation qui est réfléchie, qui est ordonnée, etc. Et donc bon, c'est bien aussi de leur voir, de leur montrer, pardon, que
il y a plein de
c'est problèmes. Un vrai travail en fait, voilà. C'est un vrai boulot d'organiser un festival, même si, comme ça, vu de l'extérieur, ça peut paraître quelque chose d'un peu ludique, mais voilà, que ça se construit.
Et tous les partenariats que vous menez avec la mission locale, que ce soit avec Inimi BD, parce qu'ils y tiennent, nous, Bartas, mais il y en a d'autres,
ouais.
Tous ces partenariats-là, sont
vecteurs d'avenir. Indispensable. Pour moi, c'est complètement indispensable. Si on ne peut pas travailler seul. On fait beaucoup de choses à la mission locale. On a beaucoup de champs d'intervention qui sont différents, mais on est obligé de s'appuyer sur des partenaires. Et puis bon, pour moi, c'est tout. C'est extrêmement bénéfique, puisque ça nous permet justement de proposer à des jeunes de participer à des actions auxquelles ils ne pourraient pas participer si c'était uniquement la mission locale qui portait ça. Donc avec Inimi BD, c'est un partenariat super intéressant. Ouais.
Franck, je vais terminer sur une seule question. Ça fait 6 ans, tu me l'as dit tout à l'heure, hors antenne, entre guillemets.
Que je travaille à la mission locale,
métier à la mission. Est-ce que tu es toujours positif? Comment ça se passe pour toi et où est-ce qu'on va, en fait, finalement? Et est-ce que tu as envie de rempiler pour 6 ans?
Pendant 6 ans, je serai à la retraite. bon, c'est pas, on va pas se leurrer, hein. c'est pas toujours facile. On a une vraie problématique, nous, d'engagement avec les jeunes. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont un peu dans l'immédiateté, un public un peu volatile, ce qui fait que parfois, sur des actions comme la création de ce mapping qui demande du temps, de la persévérance, des fois il faut un peu s'accrocher, c'est trouver les bons arguments. Bon, malgré tout, on y arrive. Hein.
Merci beaucoup, Franck.
Merci à toi.
Et voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve lundi. Merci à toutes et tous de nous suivre. On se quitte avec Cholo Aventuroso. Merci à Nono pour la découverte. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. À lundi. Ciao.